Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 266e numéro de Comic Stories qui sera consacré à nos bulles VF du mois de mars. Au programme de l'émission cette semaine, si je compte bien, une dizaine de chroniques de comics sortis récemment ou non en VF. Et puis nous ferons le désormais traditionnel focus, cette fois-ci sur Batman par Scott Snyder. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 266e numéro de Comic Stories. Et pour ces bulles VF du mois de mars, Anthony.
Bonjour à tous.
Léo.
Salut.
Et une nouvelle voix pour vous, Romain.
Bonjour à tous.
Romain, on va te présenter rapidement en disant peut-être que tu es le renfort Archie Comics que j'attendais.
Exactement, oui. Effectivement, je suis un gros lecteur de comics, j'adore Archie Comics. Je lis beaucoup de VO et un petit peu de VF, donc c'est pour ça que là j'ai qu'un seul titre ce soir pour moi.
Ok. Pourquoi je précise dans l'intro de cette émission bulle VF du mois de mars, puisque vous allez avoir pour la première fois des bulles VO, puisqu'on va vous parler sur plusieurs émissions, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, des premiers tomes de DC Rebirth pour vous permettre un petit peu de faire votre choix avant que ça arrive en France. Donc autant vous dire qu'on a encore le temps devant nous pour faire deux ou trois émissions tranquilles avant que ça arrive en France.
Hein. Pas pressé.
Ouais, hashtag troll, ouais. Allez, Mathieu, Anthony, puisque tu t'exprimes, tu vas commencer avec notre partie sur l'univers Marvel et tu vas nous parler de quelque chose qui, ma foi, est d'actualité.
Oui, je vais vous parler de Power Man et Iron Fist tome 1. Donc, c'est évidemment sorti donc, chez Panini dans la collection 100%. Ça regroupe les 6 premiers épisodes. C'est écrit par David Walker, dessiné par Sanford Green sur les 5 premiers et Flaviano, tout court, sur le 6e. Et ça vaut 13€ pour 112 pages. Donc, bon, d'un point de vue tarif et pagination, c'est la gamme. Donc là, pas de soucis. Première petite critique éditoriale, c'est la couverture qui est absolument infâme, alors que le dessinateur régulier fait les couvertures des 6 premiers numéros qui sont pour le coup très réussis. Panini fait encore le choix de proposer une couverture assez hideuse, je dois dire. Donc, ça donne pas forcément envie d'acheter le bouquin. Ce serait une erreur parce que c'est pas si mal. Alors, donc le duo Power Man et Iron Fist, c'est un dynamique duo, comme on aime le dire, marvelien qui date des années 70, si je ne me trompe pas. J'en ai jamais lu. J'ai jamais lu les aventures du binôme. J'ai très peu lu d'Iron Fist et j'ai lu du Luke Cage récent, donc sous Bendy, c'est quand il était dans les Thunderbolts. Donc voilà, c'est des personnages que je connais pas très bien, que j'apprécie pas tellement non plus. Pourtant, je suis allé lire ce petit tome parce que j'en avais entendu du bien et effectivement, c'est pas si mal. Donc d'un point de vue, petit résumé de l'intrigue. Donc les deux héros sont séparés. Il y a plus les héros alloués, les Heroes for Hire. Malgré tout, ils vont se réunir autour de leur passé commun, puisque leur ancien associé, dont j'ai totalement oublié le nom, sort de prison. Donc apparemment, ça fait référence à un événement de la série. Je pense d'un des numéros de l'ancienne série ou des anciennes séries. Donc elle sort de prison et elle a plus ou moins des choses à. Et avec une histoire de vengeance derrière, donc l'intrigue est assez légère. C'est pas vraiment en fait l'intérêt premier du tome, puisqu'en fait la vraie question autour de cette série, c'est est-ce que les deux protagonistes, donc Danny Rand et Luke Cage, vont se remettre ensemble et reformer ce duo qu'on peut dire, je pense, assez mythique dans l'histoire de Marvel. C'est un truc qui a bien marché. D'un point de vue, enfin, pour les avantages du tome et ce qui met les points positifs, ce qui m'a plu, c'est que c'est une aventure assez décomplexée qui se prend pas la tête. Donc c'est publié en 100%, donc c'est évidemment à part de l'univers en marche, on va dire, de Marvel. Donc c'est une série marginale qui est très fraîche, très fun à lire, avec un humour qui là pour le coup est omniprésent, mais c'est justifié. Donc ça marche là aussi très bien. D'un point de vue arc narratif, les 5 premiers numéros forment un arc narratif complet qui est assez inoffensif, mais qui dans le style street feel good, voilà, marche très bien, c'est très efficace. En plus, c'est assuré par une partie graphique donc de Sanford Green sur ses 5 premiers numéros, qui fait un peu dans le pulp pop, j'ai trouvé. Donc c'est très expressif, c'est très exagéré, mais c'est du coup très dynamique et assez punchy. La colorisation est aussi assez uniforme et assez unie, donc il y a une petite ambiance sympa qui se dégage des pages. Pareil, les physiques sont tous exagérés dans leur dans les gros traits, quoi, on va dire. Donc Luke Cage est assez énorme et Danny Rand est assez filiforme, donc c'est assez rigolo à regarder. Enfin, c'est assez attractif à l'œil, on va dire. Par contre, du coup, le sixième numéro, qui est un numéro one shot de transition, est un peu en dessous, je trouve, même si on reste dans ce même ton très street. Quelques petits points de détail qui m'ont bien plu, notamment la caractérisation de Luke Cage, qui fait un peu dans le je suis trop vieux pour ces conneries, qui est mené par le bout du nez par sa femme Jessica Jones. Le dialogue de couple entre les deux marche plutôt bien. On a une Jessica Jones en forme très forte et un Luke Cage un peu soumis, un peu chien-chien. C'est original, on va dire. Maintenant, voilà, ils ont toujours leur gamine qui apparemment ne grandit pas. C'est étonnant. Ouais, c'est bizarre. Surtout que voilà, on avait des aperçus d'un futur potentiel où elle devenait Captain America, mais apparemment, c'est pas près d'arriver. Passons. Du coup, pour compenser l'aspect très Mossad de Luke Cage, très papa à la maison, on a un Danny Rand tout foufou, voire légèrement débile sur les bords. Bon, malheureusement, comme j'ai pas lu la version de référence de Fraction et Brubaker, je peux pas dire si son écriture colle bien. Moi, ça m'a plu.
Absolument pas. Il est lu, je peux dire que ça colle absolument pas.
C'est vraiment un truc qu'il faut que je rattrape. Maintenant, en l'état, dans le cadre de la série, ça marche bien. Voilà, c'est assez, comme je l'ai dit, inoffensif. Donc, il n'y a pas besoin de s'exciter autour de la caractérisation du personnage. Deux points de détail. Dans l'arc, il y a une réflexion sympa sur le port du costume, puisqu'en fait, Luke Cage est constamment habillé en civil et Danny Rand est, lui, tout le temps en costume. Et il y a pas mal d'échanges sur le fait de l'idiotie, en fait, de porter des costumes constamment, puisqu'en fait, les héros veulent passer incognito pour mener leur petite enquête. Donc ça m'a bien plu. Pareil, dans le sixième numéro, il y a un message autour donc de l'information, de la déformation de l'information, de la désinformation, pardon, par la presse ou par voilà, les différentes versions du public, les réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est un petit message de fond qui passe très bien, surtout dans l'actualité dans laquelle on est en ce moment. Donc voilà, un titre globalement très sympathique. Bon, évidemment, c'est oubliable, mais on passe un petit moment sympa de lecture. Je recommande, par curiosité, maintenant, c'est pas un achat obligatoire.
Ok. Je vous pose la question pour la forme. Romain, Léo, vous n'avez pas lu ?
Non. Mais ce que dit Anthony élève mon intérêt, vraiment ça a l'air assez sympathique.
Ouais, c'est sympathique, voilà, c'est ça.
Sur les trucs que ça soulève, etc. Enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui sont mélangées, donc pourquoi pas, c'est à voir.
Après, j'aime pas Luke Cage, donc forcément, je vais pas trop me.
Moi, le street level, c'est pareil, je suis pas forcément fan.
Ah, j'aime le street level, mais Luke Cage, je peux pas. Je sais pas pourquoi.
Dans les Thunderbolts, t'as bien aimé.
Ouais, ça passe, mais c'est parce que voilà quoi, c'est parce qu'il y avait le reste.
C'était énorme. Bon, passons.
Allez, ça tombe bien cette petite transition que je vais faire, parce qu'on a une autre émission débat sur les covers il y a peu de temps, sur l'importance de la couverture.
Mais oui.
Et on va parler d'encore un comics avec une couverture absolument dégueulasse.
Ouais, Doctor Strange tome 2, donc toujours par Panini, toujours en 100% Marvel. Cette fois, c'est 168 pages pour 18€, donc c'est plus gros, mais c'est du coup bien plus cher. De toute manière, c'est le tarif Panini, donc voilà, on connaît,
connaît
leur politique. Ouais, c'est un peu cher. Surtout que la couverture, du coup, est pas du tout attrayante. Alors que là aussi, ils avaient du Chris Bacalo en direct dedans, mais non, apparemment non.
Ouais, il y avait des super couvertures sur Death of Magic là, sur le
Event
là, c'était. Wow.
On a un truc bien crado quoi. Donc ça fait bien envie quand on l'achète. Bon, passons. Donc ce tome, ça regroupe. Donc les épisodes 6 à 10 plus le one shot Last Days of Magic, donc là ça intercale entre les numéros en fait, je vais y revenir. Donc le premier tome se terminait sur l'Empiricule qui détruisait en fait à petit feu la magie dans le monde Marvel et dans le multivers, et on savait que globalement l'essence magique du monde était largement en train de dépérir, si ce n'est de disparaître totalement. On voyait que pas mal de personnages liés à la magie étaient affectés, donc c'est ce qui va être de nouveau présenté dans ce tome, et c'est là, moi, le plus gros défaut que j'ai à faire et à soulever, c'est qu'en fait, on a un tome divisé en deux parties, avec une première partie qui est ultra redondante avec ce qui a été fait dans le premier tome, et une deuxième partie finale de clôturation qui est dinguissime. Donc je vais y revenir. Donc la première partie, en gros, donc c'est dessiné par Chris Bacalo. Donc on a la menace frontale, enfin la première partie de l'affrontement entre donc le chef de l'Empiricule, l'Imperator, et donc Docteur Strange. Donc évidemment, comme c'est la première partie de l'affrontement, ça se termine mal pour Docteur Strange qui est, qui se fait rétamer la gueule, hein, globalement. On a une scène très forte où il y a la cape de Lévite. Ah, je vais pas le soulever pour ceux qui veulent le lire, mais ces premiers numéros donnent le ton, ça marche très bien, c'est ultra violent et ça dénote vraiment avec l'aspect découverte et un peu psychédélique de Strange. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, de beaucoup plus de combat au corps à corps, et c'est assez impressionnant à lire. Et là, je ne sais pas pourquoi, on a ce numéro Last Days of Magic qui, en fait, va présenter... C'est un numéro assez gros en termes de quantité de pages. Et Jason Aaron... Donc oui, c'est écrit par Jason Aaron l'ensemble du tome. Je ne suis pas revenu. Donc dessiné par Chris Bacalo, les numéros réguliers, et The Last Days of Magic, il y a une quantité faramineuse de dessinateurs qui ne sont pas très bons. Enfin, ça m'a pas plu, en tout cas. Et donc, en gros, dans ce numéro bonus... Enfin, ce numéro, je sais pas comment on appelait ça.
Ouais, c'est un one-shot pour introduire...
Un one-shot. On va nous présenter sur entre une et trois, quatre pages l'impact que a l'Empiricule sur tous les personnages magiques. Alors, il choisit des personnages au hasard, je sais pas pourquoi. Il en crée aussi, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, à voir s'ils seront réutilisés par la suite, j'espère. Donc, on va suivre Brother Vaudou. On va suivre un magicien mexicain que je connais pas. Une flic... un espèce de fataliste chinois que je connais pas non plus. Mais le problème, c'est que tout ça, on le sait déjà, en fait. C'est que Jason Aaron appuie vraiment sur le fait que la magie disparaît, sur le fait que la magie est en danger, sur la menace assez importante qu'est l'Empiricule et le combat psychologique qu'il représente. Mais c'était déjà les enjeux du premier tome. Donc au final, on se tape presque 80 pages de développement, certes, mais qui n'a porte pas grand chose, puisque les personnages que je connais, je les vois lutter sur deux pages, c'est rigolo. Les personnages que je connais pas, ils sont présentés sur une page, donc j'en ai un peu rien à foutre. Donc c'est un peu étrange, ce numéro, j'ai pas du tout apprécié, en fait, pour être clair, j'ai pas du tout apprécié. Donc j'étais pas vraiment dans ma lecture. Et là, deuxième partie, Docteur Strange et son crew de magiciens à la dérive, donc qui regroupe Scarlet Witch, Brother Vaudou. Il y a qui d'autre? Il y a Wong, il y a Magic, donc voilà, il n'y a pas Wiccan, ça m'a un peu gêné, c'est un peu bizarre, il n'y est pas, bon. Et du coup, en fait, ils vont traquer autour du monde, donc c'est une course-poursuite autour du monde, les derniers artefacts magiques, et pour retrouver en fait les dernières particules de magie, pour se constituer un dernier baroud d'honneur contre l'Empiricule. Et il y a un petit twist de fin sur un petit twist de mid-tome sur les secrets du Docteur Strange, et c'est très très sombre. Je sais que Léo, c'était un gros fan du Docteur Strange, je pense que là ça va vraiment détonner avec ce que tu as lu, je pense. C'est ultra dark, c'est très creepy, et ça marche très très bien. Et cette traque autour du monde où les magiciens sont poursuivis par les chiens, les lignées de l'Empiricule, ça marche très bien. On est dedans, on a peur pour eux. En plus, il y a une scène, en tant que fanboy de la Terre du Milieu, où il y a Docteur Strange qui tombe nez à nez sur un squelette de dragon qui repose sur un trésor. Là, j'étais parti, quoi. C'était pas possible. Et vraiment, c'était effréné. On n'y arrête plus. La menace de fin, c'est incroyable. Bacalo donne tout. Donc, la deuxième partie de tome, c'est de la folie furieuse. Je vous conseille vraiment l'achat de ce tome pour cette deuxième partie. Maintenant, tout ce qui se passe dans les 70-100 premières pages, c'est que du développement un peu artificiel, puisqu'on le sait déjà. Maintenant, à voir si effectivement ces nouveaux persos vont pouvoir interagir avec l'univers magique. Il me semble qu'il y a une autre série, un espèce de spin-off Docteur Strange qui a été qui est sorti. Donc à voir si ce sera développé là-dedans. En l'état, un tome plutôt schizophrène, mais magistral sur sa seconde partie, donc lecture conseillée.
Ouais, Last Days of Magic, c'est vraiment excellent, et non pas Death of Magic, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment super. Après, ce truc-là, ça vient aussi peut-être de la politique de Marvel de vouloir vendre absolument des TPB et du coup de réintroduire des choses en début de chaque TPB pour dire c'est pas grave si vous n'avez pas lu le tome 1 parce qu'on vous le réexplique au début.
Ouais, mais bon, oui,
ah, mais j'adhère pas, hein, c'est clair, mais.
Le problème, c'est que, enfin, ils nous font déjà le coup à coup, enfin, ils nous font déjà le coup sur les numéros 1 single, tous les 15 numéros. S'ils nous le font aussi sur les TP, enfin, c'est plus possible, quoi.
C'est sûr.
Je pense que le lecteur est suffisamment intelligent pour ne pas oublier ce qui s'est fait il y a 6 mois.
Bah, 6 mois, c'est beaucoup, bon. Ça fait 6 numéros sans reload, je t'imagine.
C'est vrai, c'est vrai. C'est, ouais, effectivement. Oui, donc c'est totalement justifié, en fait.
Voilà. Allez, cette petite partie de troll étant achevée. Léo, tu as eu le temps de le lire, toi, en tant que fan du perso?
Malheureusement, non, c'est en haut de ma piste, enfin de ma liste, pardon, de comics. Mais là, Anthony vient de faire remonter ma hype, donc je pense que mon prochain moment de libre a été booké.
Ouais, la deuxième, non, la deuxième partie est.
L'histoire Last Days of Magic, ouais, vraiment génial, c'est clair. Allez, on va quitter l'univers Marvel pour partir un petit peu du côté de quelques histoires à tendance surnaturelle, on va dire. Et je vais commencer avec une sortie Glénat Comics, une sortie de ce mois, du mois de mars. C'est sorti le 8 mars, 160 pages pour 14,95 €. C'est Wayward, tome 1. Alors j'insiste sur le prix, parce que pour une fois, c'est abordable. 14,95 € pour 160 pages, écoutez.
Ah oui, là, c'est pas mal.
C'est Glénat. C'est Glénat, c'est pour ça que
c'est Glénat. D'accord, c'est bon,
hein. C'était encore un hashtag troll.
Mérité.
Alors, c'est Jim Zub qui est au scénario, Steve Cummings notamment au dessin pour cette nouvelle série de chez Glénat Comics. Encore une nouvelle série, il n'arrête décidément pas. Celle-ci, elle vient de chez Image. C'est assez particulier, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai dû m'arrêter au milieu du tome, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire. Et puis après j'y suis revenu, puis finalement ça a coulé, mais il m'a fallu cette petite pause pour me dire allez. Alors ça nous parle de Rory Lane, qui est une jeune fille avec un papa irlandais, une maman japonaise. Sa mère vit au Japon et elle va se rendre pour la première fois de sa vie à Tokyo pour la retrouver. Alors vivre avec elle, a priori, c'est ce qu'on semble vouloir nous dire au début. Elle s'installe avec sa mère. Alors pourquoi ? Ça, on ne sait pas trop. Pourquoi elle ne va plus vers son père ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas ? Donc elle va découvrir la culture japonaise, la ville de Tokyo. Donc ça va être une bonne partie quand même de ce premier tome. Hein. On va aussi nous présenter à nous des choses de la culture japonaise. Et puis, au fur et à mesure de ses promenades dans les rues de Tokyo... Eh ben, un jour, elle va se faire attaquer par des créatures un peu dites légendaires. Elle va commencer à voir des monstres, il va se passer des trucs bizarres autour d'elle. On s'aperçoit qu'elle a un espèce de pouvoir où elle voit ce qu'elle appelle des trames, c'est-à-dire comme des grosses ficelles rouges lumineuses qu'elle est la seule à voir, qui lui permettent de suivre un chemin en fonction de ce dont elle a besoin de faire ou ce qu'elle a envie de faire ou... C'est pas forcément des choses qu'elle a envie de faire ou des lieux où elle a envie d'aller, ça peut être des fois des lieux où elle a besoin d'aller pour se sentir, pour être en sécurité, pour retrouver quelqu'un qu'elle recherche, etc. Et elle suit du coup ces trames qui sont des espèces de fils rouges, lumineux, des tentacules, enfin on sait pas trop ce que c'est, et elle-même elle ne sait pas trop ce que c'est, elle sait pas trop ce qui lui arrive. Voilà, tout ça mêlé de culture japonaise, ça fait un mélange un peu étrange, franchement, c'est pour ça que moi au bout de deux chapitres je me suis arrêté. Je me suis dit, je vais pas le finir, parce que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas où est-ce que ça voulait aller, où est-ce que ça m'embarquait, tout ça. Alors oui, la gamine, elle est sympa, Rory, la relation avec sa mère est plutôt intéressante, on sent bien que sa mère, elle est bizarre, qu'elle cache un truc assez important. Après, est-ce que j'avais envie de voir cette gamine entourée de chats aux yeux qui brillent et suivre des ficelles rouges lumineuses? J'étais pas franchement sûr. Mais j'ai quand même fini ce tome. Puisqu'après tout, je l'avais. Et puis au final, on se laisse embarquer quand même dans l'histoire. Les choses se décantent un peu à partir de la troisième partie. Ça commence un peu à partir sérieusement en vrille, avec de plus en plus de créatures, de pouvoirs mis en jeu, de choses dans les souterrains de Tokyo. Voilà, les enjeux commencent à se poser, la situation explose un peu. Voilà, ça devient intéressant sur la deuxième partie du tome, vraiment, sans que pour autant j'arrive vraiment à voir ce que Jim Zub a envie de me raconter sur sa série, mais pourquoi pas. Alors oui, évidemment, il se sert de cette métaphore des pouvoirs et des créatures, etc., pour parler de l'adolescence. Oui, ok, mais c'est pas le premier à le faire. Enfin, je suis assez partagé. J'irai, je pense, jeter un œil au deuxième tome, parce que cette deuxième partie m'a suffisamment intrigué pour que j'ai envie d'en savoir plus sur notamment ce qui se passe dans le cliffhanger de fin dans les souterrains de Tokyo. Ça m'intéresse. Les bonus de Glénat sont sympas. Il y a quelques, évidemment, des travaux de préparatoire, etc. Mais il y a aussi un petit mot du scénariste, et notamment le premier mail que le scénariste a envoyé au dessinateur Cummings, pour faire le premier brainstorming, en fait, avec lui. Voilà, le premier mail où il lui pitch le truc, etc. C'est assez sympa d'avoir ça, un peu les coulisses de la relation entre les deux et de la création du truc. Il y a aussi un petit 2-3 pages sur la vie au Japon, le lycée au Japon, ses différences avec la France, les différences entre nos cultures, etc. Ça, c'est intéressant. S'il y en a dans les autres tomes, c'est un vrai truc, un vrai ajout intéressant pour cette édition. Donc, le boulot est bien fait éditorialement. L'histoire, voilà, c'est un peu étrange. Je ne peux pas dire que j'ai pas aimé. Je ne peux pas dire que j'ai aimé non plus. Enfin, voilà, je suis un peu entre deux chaises pour le coup. Ce que je sais par contre, c'est que les dessins sont super beaux. Moi, j'ai vraiment adhéré au dessin. C'est un espèce de mélange entre le style un style un peu japonisant, mais tout en restant comics. Enfin, c'est assez intelligemment fait ce mélange. Et puis il y a quand même des super, avec les pouvoirs et les créatures, etc. Il y a quand même de belles splash pages, de belles double pages. Voilà, ça vaut le coup visuellement. Voilà, laissez-vous tenter si vous voulez voir un truc que vous n'aurez pas l'occasion de lire ailleurs. Parce que clair, c'est original, ça sort un peu des sentiers battus. Après, vous attendez pas à ce que ça renverse la table non plus.
Ok.
C'était un petit peu l'ovni du mois.
Et du coup, pour entre guillemets s'immerger dans la culture jap, ça c'est bien. Ça suffit ?
C'est pas avec ça que tu vas découvrir la vie au Japon, etc. Oui, mais ces petites pages de bonus à la fin, notamment sur les différences entre le lycée japonais, le lycée chez nous, etc., le système scolaire, tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est un vrai complément du coup à ce qui se passe dans l'histoire, parce qu'on la voit débarquer dans un lycée, etc., et elle qui vient de l'Irlande, forcément elle se confronte à des trucs. Donc ouais, non, si, il y a des choses intéressantes. Après, ça reste quand même...
Ouais, mais par principe, Léna...
Ah oui, voilà, je sais que tu as du mal. Je sais que tu as des difficultés. Je vous parlais d'OVNI, c'est la transition est toute trouvée, avec le titre dont Léo va nous parler, qui est un titre toujours indies, toujours surnaturel, et c'est chez Urban cette fois, Léo.
C'est chez Urban, en effet. Alors là, c'est vraiment l'une de mes premières incursions, moi, personnellement, dans quelque chose qui est au-delà des sentiers battus, parce que j'ai jamais été très ma culture comics reste quand même assez limitée, j'ai jamais eu l'occasion de faire des détours comme ça. Je vais donc parler de Trees, en fait, que Mathieu m'a fait découvrir, en fait, parce que c'était Mathieu qui m'avait offert ça.
C'est vrai, je me rappelle.
Et en fait, l'occasion, quand on a voulu préparer les bulles, je me suis dit, ça va être l'occasion. C'est donc, les auteurs sont donc Warren Ellis et Jason Howard, et j'y suis allé pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça raconte donc l'histoire d'une société où, alors tu me corriges si je me trompe, Mathieu, hein, mais c'est une histoire de société où donc sur la Terre, des énormes troncs d'arbres, enfin ce qu'on appelle des trees, donc des arbres, mais qui, enfin dont on ne sait pas vraiment la nature, même la matière, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui travaillent autour de ça, qui essayent de voir un petit peu ce qu'il en est, etc. Et ces trucs-là ont débarqué donc en plein milieu de plusieurs villes. Et nous, alors si je me trompe pas, oui c'est ça, on est notamment en Chine. Enfin, on est à plusieurs endroits en même temps. Donc une au Svalbard. Donc je sais plus exactement où c'est, où il y a une équipe de recherche qui regarde, etc. Il commence à leur arriver des phénomènes qui sont un peu liés à l'arbre et qu'on sait pas vraiment encore à la fin du tome. Un passage en Chine où on a un jeune peintre qui arrive dans la zone qui a été délimitée autour de l'arbre qui est en Chine et qui se retrouve dans une espèce de cité, dans un immeuble et qui rencontre plein de gens, etc. À l'occasion de beaucoup de choses dont je vais parler juste après. Et un autre passage d'arbres en Italie où la mafia existe encore un petit peu, enfin plus ou moins, c'est une sorte de mafia où une jeune femme est captive notamment d'un des sous-chefs et où elle rencontre un mec qui est assez doué en termes de combat corps à corps malgré son âge, etc., et qui développe une espèce de relation un peu spéciale. Voilà. Enfin bref, ça paraît un peu barré comme ça. C'est vraiment, là c'est, voilà, Trees, ce qu'il définit, c'est vraiment le côté science-fiction pleinement. Voilà, et on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste un espèce de surgissement du surnaturel. Ça l'est bien sûr, mais pas seulement. C'est-à-dire que dans cette société-là, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas spécialement rond. C'est pas vraiment une société assez normale. Tu te dis qu'il y a des choses qui se passent en sous-main. Et vraiment là, après le premier tome, qui donc fait, je vais revérifier, qui fait une bonne centaine de pages.
Il fait 192 pages.
192 pages, voilà. Voilà. 192 pages pour 15 euros, donc c'est plutôt pas mal.
17,50 pour être précis.
Voilà, voilà. Et au bout de ces quasi 200 pages, on est à peine avancé parce que on a l'impression que tout ce que ces arbres ont fait et qui pour l'instant n'ont pas complètement révélé ce qu'ils laissaient. Ce qu'ils laissaient entendre par leur présence, on en sait pas forcément plus, mais leur ombre, leur influence est toujours est extrêmement présente parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans la société et c'est totalement validé par la fin, notamment dans le côté en Chine où il y a un final que j'avais pas vraiment vu venir moi-même et qui est assez balèze, qui est assez cruel, il faut bien le dire. Mathieu, je pense que
j'étais dégoûté. Oui.
Voilà, le final est assez cruel. En Italie, il y a des trucs qui se passent, etc. Et on se dit que il y a encore un milliard de choses qui pourraient se développer derrière. Et pareil côté Svalbard, c'est la même chose. Enfin, il y a en choisissant donc de pas s'éparpiller sur toute la planète, parce que ils sont 10 en tout. Voilà. Et ils choisissent de se focaliser sur trois arbres avec trois sujets complètement différents. Et du coup, ils articulent entre donc leur côté science-fiction, leur côté histoire, etc. Et les enjeux un petit peu sociaux, sociétaux, et surtout le plus touchant, et Mathieu, j'ai l'impression que c'est pour toi aussi, c'est ce qui se passe en Chine avec l'histoire du jeune peintre, etc., de sa manière de rencontrer, notamment sa manière de rencontrer l'amour, etc., et j'en dirai pas plus parce que il faut le lire parce que c'est vraiment assez touchant et c'est très juste, surtout ça n'a rien de cliché de beaucoup d'écueils de science-fiction, de trucs faciles, même de trucs qu'on a pu voir dans un film ou je sais pas quoi. C'est vraiment c'est très mature aussi, c'est très justement mené, c'est très justement écrit, c'est intriguant, ça emmène, ça entraîne. Moi j'étais vraiment vraiment assez conquis, assez convaincu, et malheureusement j'ai voulu me renseigner pour retrouver le tome 2 et il l'avait plus pas loin de chez moi, donc ce sera pour une prochaine fois, mais je vais continuer parce que j'aime beaucoup la science-fiction de base et ce qui a été fait autour de cette histoire, de tout ce qu'ils ont pu bâtir comme ça en 192 pages seulement, sans avoir encore rien dit vraiment de ce qu'ils peuvent faire, moi c'est ce qui me suffit, quoi. Un bon gros scénario, c'est plutôt sympathiquement dessiné d'ailleurs, c'est assez ça va un peu avec la crudité, la maturité du truc. Moi c'est tout ce qui me convenait, donc j'étais content, je valide complètement ce comics et j'attends de pouvoir lire la suite avec une certaine impatience.
Ouais, du grand Warren Ellis pour ce premier tome. Ça faisait partie des super belles affaires d'Urban quand c'est sorti en octobre 2015, parce que c'était 192 pages pour 10 euros les 10 premiers épisodes. Voilà, c'est parti des bonnes affaires de fin 2015. Je t'ai entendu dire Anthony.
Ouais. Non, je l'ai pas lu, mais juste là où pour attendre, tu peux aller te finir sur Injection tome 1 de Warren Ellis.
Oui, c'est pour ça que tu peux rester sur Twitch, effectivement, parce que Injection c'est pas pareil.
J'ai rien compris.
Moi non plus. Le problème de Trees, qui est à la fois sa qualité, c'est que là dans le tome 1 on suit trois arbres, trois endroits. Dans le tome 2, sans spoiler, on va pas s'intéresser forcément aux mêmes choses, aux mêmes endroits, etc. Et moi ce qui se passe dans le tome 2, juste ça me parle pas, ça m'intéresse pas. Et c'est assez dommage d'avoir choisi du coup ce mode-là, mais je comprends tout à fait. Hein. Et le problème, c'est que ceux qu'on a envie de voir, qu'on a vu dans le tome 1, on va attendre au moins le tome 3 pour les retrouver, pour certains. Et
c'est en fait, c'est vraiment cette capacité d'avoir levé énormément d'enjeux et qui du coup font que ça doit s'étendre un petit peu sur le tome 2 qui t'a emmerdé.
C'est ça, le tome 2 sera encore du coup un tome d'installation.
Quand même. Ah ouais, non, c'est moi.
Du coup, on va t'installer d'autres arbres.
Ah oui.
D'autres choses qui se passent autour d'autres arbres, etc. Alors, il y a des choses qui vont avancer, hein. Il y a quand même l'histoire du fil rouge de ce qui se passe dans le pôle sud. Je crois que c'est au pôle sud. voilà, ça va continuer un petit peu, et encore vraiment très peu dans le tome 2. Mais du coup, on va t'introduire plein d'autres lieux, et du coup, bah, tout cela, faut recommencer avec eux, quoi. Et donc, du coup, ça fait un peu long comme installation.
C'est trop ambitieux, limite, là, en fait.
Je sais même pas où en est le troisième arc, s'il est pu commencer d'être publié, etc., parce que moi, c'est du TP uniquement pour cette lecture-là. Et du coup, j'ai peur qu'on m'en installe encore d'autres, quoi. Et je pourrais pas. Tu l'as dit justement, ce qui se passe en Chine, c'est ma partie préférée de ce tome.
Ah, mais c'était fou.
Voilà, la force de ce tome 1 qu'on a plus forcément après, c'est qu'on s'intéresse aux arbres, mais on s'intéresse surtout aux gens qui vivent autour de ces arbres-là, et en quoi leur vie a été modifiée, et en quoi, pour certains, c'est un drame, pour certains, ça va être une chance, et même juste un moyen de commencer à vivre. Après, voilà, dans le tome 2, c'est, voilà, encore une fois, c'est pas pareil. Tu avais lu, Romain ?
Non, pas lu.
Ok. Alors, on va passer à la suite, et notre dernier titre, entre guillemets, mystique, surnaturel, c'est Sons of the Devil, chez Glénat Comics encore, c'est pour toi, Anthony. 15 février, c'est sorti, 160 pages, 14,95€, encore une fois, bravo, le prix est correct. Mm-hmm. Pourquoi j'ai lu ça ? Ben parce que sur la couverture, c'est marqué Brian Buccellato et que je suis faible.
C'est honnête au moins.
Parce que Brian Buccellato, quoi.
Excuse acceptée.
Voilà. Ouais. Je pense que ça suffit. Ça parle de soi-même. Il est avec Tony Infante, cette fois au dessin. Tony Infante, qu'on a déjà vu, je crois, chez Glena sur un autre titre. Alors, par contre, vous dire lequel, je saurais pas. Et la rigueur, c'est pas forcément très important. Alors, Sons of the Devil, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de Travis, qui est un mec a priori normal, qui a des problèmes au boulot, qui a des problèmes dans sa vie, voilà, sa vie perso avec sa copine notamment, ce mec-là a un chien, voilà, tout ce qui est plus classique, sauf que très vite on voit qu'il y a un truc qui cloche, c'est que ce mec-là, il a un œil rouge, un œil bleu. Voilà. Et puis on s'aperçoit que de naissance il est orphelin et que il s'est passé des choses dans son enfance qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui il a tendance à virer petit à petit psychopathe ultra violent. Et puis on va découvrir un petit peu plus loin que c'est pas le seul à avoir ce fameux œil rouge et cet œil bleu. Un œil rouge, un œil bleu. Il y en a d'autres. Et puis on va continuer notre lecture et on va découvrir que tout cela, enfant, bah, peut-être qu'ils se sont croisés. Et peut-être qu'ils viennent de quelque chose ou quelqu'un de commun. Enfin voilà, on va suivre un petit peu, on va remonter un petit peu le fil du temps et tout ça va nous donner une pièce du puzzle qu'on va pouvoir emboîter avec une autre, etc. Et petit à petit, on a une espèce de plan d'ensemble qui commence à se dessiner. D'un truc, ouais, peut-être un peu mystique, effectivement, parce qu'il y a beaucoup la présence, on sent bien en arrière-fond, la présence de tout ce qui est diable, les cultes occultes, les choses un peu démoniaques, etc. On sent qu'un fond comme ça, même si ça nous est encore pas balancé, enfin, si, ça nous est quand même balancé frontalement la gueule par moment, mais voilà, c'est pas encore clair que tout ça pourrait être surnaturel, mystique, démoniaque, est-ce que vous voulez. Mais on sent bien qu'il y a un truc de pas clair. Enfin, a priori, des personnes qui ont un œil rouge, un œil bleu, bon, qui ont l'air un peu lumineux, en plus ses yeux, c'est pas des choses qu'on croise tous les jours dans la vraie vie. Donc on va suivre tout ça. Au début, on n'y connaît rien, on comprend rien, on ne sait pas pourquoi ce mec il est là, pourquoi il a ce visage-là, pourquoi il a l'air d'être un psychopathe, qu'est-ce qui lui est arrivé, on sait bien qu'il lui est arrivé quelque chose, mais quoi. Et puis petit à petit, bah, tout va commencer à se reconstituer et on va comprendre à la fin du premier tome qu'on est face à un espèce de schéma d'ensemble qui semble bien plus grand que ce qu'on a bien voulu nous présenter au tout début. Donc ça m'intéresse plutôt d'aller voir la suite. Non plus cette fois par fanboyisme pour Brian Buccellato, mais parce qu'encore une fois, il m'a proposé un truc que j'aime bien. Voilà, il a su m'intéresser, ses personnages sont intrigants, ce qui leur arrive, leur passé est assez mystérieux. Ces personnes qui gravitent autour de Travis notamment voilà, m'interpellent aussi, son père notamment, des choses comme ça. J'essaie de pas trop en dire parce que j'ai hyper peur de spoiler pour ceux qui seraient intéressés de lire ça. Alors évidemment, Glena se prête au petit jeu commercial derrière, hein, de nous mettre des commentaires d'autres grands scénaristes qui disent que c'est génial, que c'est un grand comics d'horreur, que ces deux-là sont au sommet de leur art, etc. Alors, les personnes qui disent ça s'appellent Joshua Elfialkov, s'appellent Kyle Higgins et s'appellent Scott Snyder. Donc, a priori, peut-être qu'on peut en croire, peut-être qu'on peut en croire quelques-uns. A priori, ils sont plutôt talentueux, ces bonhommes. Tony Infante au dessin, c'est, ma foi, gras. C'est le premier mot qui me vient, c'est gras. Mais c'est percutant, c'est ultra violent, ultra gore, trash. Ça colle bien un peu avec l'histoire, avec la psyché de Travis et des autres. Cette espèce de trait un peu gras au niveau de l'ancrage, ça colle bien. Ça, je le conseille plus que Wayward, déjà. Je pense que vous serez moins déçus en lisant ça qu'en lisant Wayward. C'est un peu moins alambiqué ou nébuleux ou ce que vous voudrez. Ça tranche un peu plus dans le gras. C'est plus cash et tout de suite, on sait un peu plus à quoi on a affaire. Moi, quand je lis un tome 1, j'ai envie de savoir où est-ce que je vais aller. J'ai envie de comprendre un peu deux, trois choses, de me poser des questions pour me dire ça pourrait aller vers là, lui, il pourrait être ça, en fait, etc. Ce que j'avais pas forcément avec Wayward, mais ce qu'on a dans Sons of Evil. On a énormément de questions, mais on a quelques indices pour les réponses. C'est quand même ça qui, moi, m'importe quand je lis un tome 1. Donc, du coup, le tome 2, ouais, je pense que j'irai. Je sais pas quand ça sort, parce que Glénat sort beaucoup de tome 1, mais après les tome 2, faut attendre parfois. Donc à suivre. On va passer chez DC maintenant, Léo. Mm-hmm. Et tu vas nous parler d'un truc hyper récent.
Oui, très récent et surtout pas très connu, je crois. Je
non. Pense.
Je me suis dit que ça pouvait être le coup de tenter un petit truc sympathique, plutôt agréable à lire.
Disons que tu as vu le dessin animé, tu t'es dit faut absolument que je lise le comics.
Exactement, que je relise le comics, parce que heureusement, je n'ai pas découvert Killing Joke avec ce magnifique dessin animé, n'est-ce pas, qu'on avait moyennement aimé sur Comic Stories quand on avait fait la review. Est-ce que j'ai besoin de présenter l'une des œuvres les plus mythiques de DC Comics? Killing Joke, je suis tombé dessus en fait à la Comic Con la dernière fois parce que il le filait à 10€ et que je ne l'avais pas, donc je dis allez, pourquoi pas, c'était l'occasion de le trouver. Du coup, c'était une collection qu'ils appellent DC Comics le meilleur des super-héros.
Ouais, c'était Eagle Moss.
Voilà, les Eagle Moss, et donc je me suis dit écoutez, papa. En plus c'est une édition qui était plutôt sympathique parce que outre Killing Joke, il y a des bonus de fan art, c'est surtout une histoire autour du Joker qui s'appelle tout simplement Joker, je crois.
Liber Mero, Brian Azzarello.
Voilà, exactement.
Voilà, oui.
Donc il y avait ça plus Killing Joke, donc comme ça on se contente pas des 40 pages, tout ça pour 10€, donc j'en ai eu pour mon argent, mais donc Killing Joke, l'histoire à l'origine du Joker, c'est aussi l'histoire qui va mener à Oracle, hein, le fait qu'il paralyse Barbara Gordon, etc. Et c'est là qu'on apprend donc du coup toutes ses origines, bien sûr, avec toute une partie donc un petit peu, où le dessin change un peu, hein, un peu gris, qui a été ultra forcé, ce côté gris dans le dessin animé, pour expliquer comment le Joker est devenu Joker. Qui est l'histoire sacralisée, mais dont on ne sait pas vraiment si c'est forcément ça, etc. Mais bon, ça c'est autre chose, ça appartient à ce personnage un peu génial. Là où le dessin animé avait voulu faire du coup une pâle copie, rajouter 2-3 trucs un peu bidons qui avaient un peu dénaturé le truc, qui était pas, et qui du coup avait sapé toute la puissance du truc, alors qu'ils auraient pu en faire une œuvre complètement monstrueuse qui rendrait hommage à tout ce que le comics fait. Là, le comics lui, c'est une plongée dans tout ce que le noir peut apporter. C'est-à-dire que il y a des moments un peu violents quand même, parce que le moment où il tire sur Barbara Gordon, c'est assez flippant. Les passages où il torture le commissaire Gordon, c'est assez prenant, parce que la manière dont le Joker a de torturer psychologiquement son est monstrueuse, vraiment, elle est quelque part assez terrifiante. Et puis toute l'opposition avec Batman qui m'a fait penser, qui m'a fait faire un lien tout de suite avec le Batman de Miller, où à la fin du coup il se retrouve pour un affrontement et où tu vois le Joker qui se tordait le cou. Enfin, c'était euh, voilà, ça m'a permis de faire un peu une espèce de grand retour en arrière, de me replonger dans un, dans quelque chose qui est vraiment classique. En plus, l'édition est vraiment bien. Donc, enfin, y a rien au niveau des dessins, etc. Tout le passage dans le, tout le passage à la fête foraine, évidemment, est magique avec tout ce, enfin, tout le truc dans le, pas le monde miroir, mais l'attraction, dans l'attraction des miroirs, enfin, qui est, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vieillit pas. C'est vraiment, tu t'y replonges et tu te retrouves quand même tout le truc un peu sadique. Tu vois un petit peu toute la quintessence, toute l'essence du Joker et qui fait que, bah, ce personnage, c'est pas juste un espèce de connard avec un maquillage, un sourire débile, une propension à faire des blagues et qui a pas de super pouvoir, etc. Tu vois dedans, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont réédité, parce qu'après l'histoire autour du Joker, enfin, c'est vraiment une histoire, enfin, pardon, une édition qui tourne pleinement autour du Joker et autour de son sadisme. Et c'est vraiment ça qui est aussi vraiment le Joker. C'est là qu'on voit toute son opposition, tout, tout le côté où il dit je suis à une mauvaise, enfin, tu es à, en disant à Batman, tu as une mauvaise journée de ce que moi, enfin, de ce que moi je suis, tout son truc sur ses origines, etc. Et tu te dis, ouais, voilà, en effet, c'est vraiment une mauvaise journée, toute une connerie comme ça qui a transformé un mec lambda en un clown raté en un clown Prince of Crime. Et puis, bien sûr, cette fin qui nous laisse un petit peu, comment dire, dubitatif, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela, enfin. C'est bon, c'est, et pourtant c'est qu'une nouvelle qui fait que 46 pages, c'est-à-dire que c'est pas, ça fait partie un peu de ces, ces histoires comme Flash of Two Worlds qui, qu'on a l'impression que ce sont des grosses histoires mythiques, etc., alors que ce sont pas des, des trucs super longs, mais qui concentrent vraiment le, tous leurs propos, etc., et qui mettent pas de plomb à, ou même 10 tomes ou je sais pas quoi à dire ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qu'ils ont cette, ils ont eu cette capacité à vraiment bah, pour commencer tout ce, pour commencer tout ce qui est à l'origine de tout ce qui va, tout ce qui arrive dans la relation entre Batman, ses ennemis et surtout le Joker, bah voilà, ils ont, il y avait pas besoin de, il y avait pas besoin de plus, même si 46 pages ça peut faire court et qu'on se dit mais voilà, comment est-ce qu'on peut, on peut tout dire, et bah les auteurs l'ont fait, quoi. Il n'y a pas à aller plus loin. Et bon, bah voilà. Si dans ceux qui nous écoutent, les gens n'ont pas vu ni le dessin animé ni le comics, bah allez lire le comics. Et si vous avez du temps à perdre, allez voir ce dessin animé qui de toute façon ne fait qu'une heure et quart et qui montre bien comment on peut rater une adaptation tout en étant paradoxalement assez fidèle à l'œuvre, parce que bah finalement ils ont fait un énorme copier-coller et ajouté 20 minutes inutiles. Voilà comment on peut voir comment une œuvre a été à l'origine de beaucoup de choses et de nombreux écueils, de nombreux trucs scénaristiques, de nombreux et voir donc comment tout ce qui a été fait après bah finalement ne se place que dans la lignée de ce qui a été fait là.
Ouais, c'est 46 pages à l'époque où les scénaristes s'appelaient pas Brian Michael Bendis, ils n'avaient pas besoin de 6 numéros pour raconter une histoire.
Oh,
c'est vrai.
C'est facile. Oui, tellement vrai.
Bah oui, parce que ça aujourd'hui, ça sort aujourd'hui, bah voilà, écrit par un Bendis ou par un Tom King ou par je sais pas qui, bah ouais, ça fait 6 numéros. Et c'est pareil pour Days of Future Past, c'était 2 numéros à l'époque.
Voilà. Et ça révolutionne tout. En 2 numéros.
C'est ça.
Ce qu'on peut dire, c'est vive Jared Leto en Joker, quoi.
Mais oui, voilà, disons ça. Allez, ça conclura bien ce truc.
Et vive Ben Affleck en Batman aussi, tant qu'on y est, hein ?
Effectivement.
Évidemment. Du coup, je souligne l'édition dont tu as parlé toi, puisqu'effectivement, elle est moins chère que la version urbaine, hein, qui ne contient que The Killing Joke, et une toute petite histoire derrière, qui est laquelle d'ailleurs, je l'ai pas dans les crédits, évidemment, hein, c'est pas noté, donc faudrait que j'aille fouiller, qui est, elle, à 13€ pour 72 pages. Vous apprécierez.
Voilà.
Ouais.
Vous apprécierez le prix. Allez, on va apprécier par contre le prix du prochain titre, et c'est Romain qui va nous en parler. C'est un kiosque, et c'est le retour de Green Lantern en kiosque. Non, c'était peut-être déjà revenu une fois.
C'était revenu une fois, effectivement. Alors du coup, Green Justice League Universe hors série numéro 4, qui comprend les Green Lantern 47 à 52. Déjà, il faut remercier quand même Urban d'aller jusqu'au bout du run des New 52. Même si, bon, on l'achète plus pour compléter la collection que pour l'histoire, on va voir pourquoi, parce que c'est vrai que l'histoire, elle est un petit peu dispensable. Après, c'est toujours Robert Venditti au scénario, beaucoup de Billy Tan qui partagent les rôles avec Martin Coccolo et Vicente Cifuentes, Rafa Sandoval sur le 31, mais beaucoup de Billy Tan. Alors, on a un arc en 6 numéros qui se divise un peu en 3 parties. Tout d'abord, on a toujours Hal Jordan qui est Onega, hein, ça reste la même chose que dans les épisodes précédents. Il revient sur Terre parce qu'il veut revoir son frère et ses neveux, nièces, sauf que bien sûr, rien ne se passe comme prévu, et il va devoir faire face à des terroristes qui viennent d'un pays d'Europe de l'Est, hein, le Modora, qui se sont associés à un criminel sonar. Et là, il va devoir faire face donc, à cette menace, une menace qui est autour du son, une histoire qui est indispensable, on va dire, dans le sens où la menace n'est pas forcément énorme. Par contre, il y a une relation qui est intéressante entre Hal Jordan et son neveu, qui est blessé dans l'intrigue. Et là, c'est intéressant parce qu'on a ce côté humain de Hal qu'on avait beaucoup perdu dans l'arc précédent. On oublie que Hal, malgré tout, ça reste un humain avec un pouvoir démentiel grâce à ce gant qu'il a actuellement, mais ça reste un humain. On a une deuxième partie, alors là, qui est complètement what the fuck avec Parallax. Je ne fais pas de spoil puisqu'il est sur la cover du numéro. Alors là, vraiment, il arrive de on ne sait où. L'histoire est vraiment très très dispensable pendant deux numéros. Et la dernière partie, on revient sur une petite chasse à l'homme où Hal Jordan est encore pour chasser. Mais bah, c'est vraiment six numéros qui sont vraiment dispensables. Enfin, Billy Tan fait quand même toujours du bon travail, hein. Il dessine quand même bien. Ça fait depuis le 21e numéro de Green Lantern qui est au dessin. Mais vraiment, c'est très inégal au niveau du scénario. Enfin, on sent que Robert Venditti il a accéléré parce qu'il fallait à tout prix enchaîner sur le Rebirth, qui en plus ne sera pas meilleur. Vraiment, c'est à acheter si vraiment vous avez envie de compléter votre collection. Sinon, vous pouvez passer clairement vous pouvez passer ce kiosque. Encore que à 5,90, vous faites dans tous les cas une affaire. Même si bon, la qualité n'est pas au rendez-vous, vous avez au moins un tome qui n'est pas très cher. Voilà.
168 pages, 5,90€, c'est pas cher.
C'est imbattable, c'est sûr que là c'est imbattable.
Et puis c'est prenez-le au pire pour un artbook parce que vous avez quand même de super pages dedans.
Par contre, il y a des covers alternatives aussi au bout. Il y a 4 covers alternatives, dont 2 Darwin Cook, il y en a à l'intérieur qui dessine super bien. Enfin, il y a des bonnes choses. Hein. C'est à 5,90€, on peut que l'acheter, mais bon, l'histoire est vraiment indispensable.
Voilà. Non, il y a certaines pages qui sont belles, mais après l'histoire, j'ai pas encore lu. Hein. Je l'ai, je suis en train de le feuilleter là en même temps que tu
en parles. Bon courage pour la partie au centre avec Parallax, c'est incroyable.
Ouais, mais le problème, c'est que j'aurais peut-être pas dû le feuilleter parce que j'ai vu le Batrobo, la Gordon, quoi.
Et ah, mais c'est.
Du coup, il va redescendre un petit peu.
Là, il y a un petit truc marrant justement avec le Batrobo, avec Batchappie, parce que bon,
il appelle le Bat-Lapin.
Ouais, le Bat-Lapin, voilà, il y a une petite private joke. Mais franchement, la partie avec Parallax, c'est vraiment. Qu'est-ce qu'il fait là?
Ouais. Bah, il attendra celui-là, il va redescendre un petit coup dans la pile.
Je pense qu'il y a mieux à lire avant, ouais, effectivement.
Et en plus, transition toute trouvée, le Bat-Lapin, donc du coup, est dans ce numéro. Et comme son run vient de se terminer en kiosque, enfin pour certains peut-être, ou dommage pour d'autres, et peut-être finalement dommage pour ceux qui pensaient au début, enfin, vous verrez après quand vous lirez Tom King. C'est hashtag Megatron. Batman par Scott Snyder. C'est toi, Anthony, qui a suggéré cette idée, ouais. Je crois.
Bah, oui.
Que, ça tombe au bon moment, parce que le run vient de se finir en kiosque, il est fini en librairie depuis un mois ou deux. Ouais. Donc du coup, tu voulais qu'on revienne un petit peu sur ce que l'ami Snyder nous a fait sur Batman.
Bah ouais, ça me paraissait le bon moment. Enfin, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, le dernier numéro, c'est sûr en tout cas, n'est pas écrit par Snyder, mais par son plus fidèle héritier, on va dire,
James Tynion.
Et donc, c'est dessiné par Riley Rosso. Donc, dans un numéro 52, donc, qui clôture plus de 50 runs, puisque Snyder il a repris les rênes de Detective Comics sous la période donc Dick Grayson, lorsqu'il portait donc la cape. Et dans un arc narratif, je pense, publicité à raison, qui était donc Black Mirror, qui avait vraiment posé le game, je pense, du Batman de l'époque. Ouais. C'était voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. Ça a été reviewé, chroniqué dans tous les sens. Sachez en tout cas que c'est une lecture, je pense, indispensable sur le personnage. Pour ma part, je suis pas lecteur DC, mais je suis lecteur Batman, évidemment. Donc j'ai lu pas mal de trucs sur Batman, donc voilà, je pense que le run de Snyder, on va y revenir un petit peu, malgré le fait qu'il soit assez critiqué, discrédité, je pense quand même que c'est un truc assez historique, pas culte, mais historique, ce qu'il a fait, dans le bon ou le mauvais sens du terme. Voilà, je pense que on est tous d'accord pour dire que voilà, Black Mirror et sa reprise avec Batman 1 jusqu'à la fin de la cour des hiboux, voilà, c'est potentiellement ce qui s'est fait passer dans le top 5 des meilleures histoires de Batman, je pense.
Bah puis surtout, fallait passer derrière l'ami Morrison.
C'est pas vrai. Évident. Morrison, oui.
Parce qu'il c'est était vrai, en train vrai. De... Enfin, à l'époque où, il a, où Snyder a commencé, Morrison était encore sur Batman et Robin, je crois. Mais il commençait à tirer sur la fin de son run et ben, fallait quand même trouver le successeur.
Oui, ouais, ouais, c'était tout trouvé en la présence de Snyder, qui du coup, après, pour ma part, m'a plus ou moins accroché sur... je pense que si ça vous dit, si on revient arc par arc, ça paraît le plus...
On va se la faire comme ça, voilà, ouais. Assez rapide.
Moi, pour ma part, Death of Family, c'est ça ? Ou Death in the Family ? Ouais.
Death of the Family.
Of the Family, oui.
Pour moi, ça m'a bien plu, notamment sur ce numéro d'introduction avec un Joker absolument terrifiant qui revient pour se finir dans une conclusion, on va le voir, à la Snyder, on y reviendra après. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Ah, bah, le Batman 13 était grandiose, et puis bah, derrière, voilà quoi.
Il y avait aussi ce passage sur, dans Arkham où Batman est sur un cheval avec un couloir en feu, c'était très très fort ce passage-là aussi.
Et déjà là, on aurait dû commencer à se poser des questions.
Pourquoi ?
Sur les substances qu'il prend, peut-être ?
Sur les choses un peu over the top qui allaient nous arriver par la suite. Déjà là, on aurait dû avoir une petite interpellation.
C'était moi en fait jusqu'à la toute fin, et je pense qu'on va spoiler aussi maintenant jusqu'à la chute du Joker, je pense vraiment que Death of the Family était vraiment correct, pour ma part en tout cas.
Oui, il était
ça restait, ouais, ça,
moi, j'ai bien aimé aussi, ouais.
On sortait du choc, Court et Night of the Owls, on était encore là-dessus, on a une introduction d'arc qui est juste fabuleuse avec le commissariat, donc oui, même si la fin déçoit un peu, on pardonne encore là sur Death of the Family, voilà, on accepte encore que bon allez, c'est pas grave, il s'est foiré sur la fin, mais regardez ce qu'il vient de nous faire, et ça a commencé avec Black Mirror, après les hiboux, etc. Bon, fallait bien qu'à un moment il se vautre, il repartait pour une année.
Ouais, et d'ailleurs, on peut citer aussi deux numéros de transition, avec un arc en deux numéros sur Clayface, qui était assez agréable à lire.
Oui, c'est vrai, il était pas mal.
Totalement dispensable, mais assez détonnant par rapport aux très grosses sagas que Snyder a l'habitude de faire. Parce qu'on va s'en rendre compte, c'est toujours voilà, des arcs narratifs sur 8, 9, voire 10 numéros. Notamment sur Zero Year, qui, je pense, on est d'accord, démarre toujours très fort pour finir la queue entre les jambes, avec une fin à demi avouée.
C'était que 10 numéros, j'ai l'impression que c'était 13.
Zero Year, c'est plus que 10 numéros.
Ah ouais, c'était interminable.
C'est 12 ou 13, ouais. Il y a deux TP en France.
Moi, pour ma part, du coup, Zero Year, j'ai trouvé ça très ambitieux, puisque, bah, du coup, au vu du titre, il veut nous refaire un petit peu son Miller avec son Year One, agrémenté de dommages persistants à The Dark Knight Returns, notamment sur certaines cases distillées au cours de l'arc. Moi, pour ma part, j'avais voilà, donc trouvé ça très ambitieux, très couillu, avec un parti pris graphique, puisque Greg Capullo, on va le dire, a assuré la majeure partie des numéros. Moi, ça m'avait vraiment pris par la main. Malheureusement, ça partait trop en sucette, et on va le voir, malheureusement, c'est ce qui va, je pense, caractériser le run de Snyder pour se finir dans un bullshit total incompréhensible.
Raison, il m'a pris par la main vers la sortie.
Mais Snyder, c'est quand même un mec qui... Enfin, c'est toujours une histoire de Snyder, c'est quand même des mecs qui pètent toujours plus haut que leur cul. Alors celui-là, il est... celui-là, au moins, il sait un peu de quoi il parle, hein, pas comme l'autre Snyder.
Oh, ça, il fallait qu'il revienne, celui-là.
Voilà, c'est quelqu'un qui est talentueux, clairement. Enfin, quand même, la cour des hiboux, c'était quand même un truc, mais un chef-d'œuvre. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Même Death of the Family, moi, j'avais bien aimé, même si en effet, il peut partir en vrille. Mais il a une espèce de capacité à se placer dans ce côté complètement dark, un peu noir et blanc, etc. Même déjà, je trouve que ce côté Miller dont tu parlais, Anthony, même dans les hiboux, ça peut se retrouver un petit peu. Il y a un truc qui est assez cru, qui fait penser un peu à Frank Miller. De toute façon, c'est aussi du Batman très, voilà, très mature, très violent, très... très balèze quoi, à ce niveau-là, c'est vraiment, enfin il y a une volonté de choquer. Alors après, c'est plus ou moins bien fait et plutôt bien dans la cour des hiboux, pas mal dans la Death of the Family, un peu moins après j'ai trouvé pour Year One et d'autres, mais il se place vraiment, enfin il a une volonté de se placer dans la filiation Batman, dans tout l'univers, etc., et montrer que bah il connaît ça, tu vois, il sait y faire. Alors après, du coup, ça lui fait faire deux ou trois crises d'ego. Mais bon, il a fait quand même assez de choses intéressantes pour qu'on puisse lui pardonner quelques écarts.
Ouais, je
Moi je suis un problème avec Snyder dans le sens où tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans son coin, il s'est jamais accordé avec les autres auteurs des autres séries. C'est toujours lui qui a posé sa vision, jamais envoyé les autres personnages. Enfin, Batman était seul alors que la Batfamille est juste à côté. Enfin, c'est...
Et puis je pense que, enfin, surtout pour les scénaristes qui étaient à côté, qui scénarisaient les Nightwing, les Batgirl, les Batwoman, les machins, ça devait être un calvaire. Parce que ce mec-là imposait à ces scénaristes-là de couper leurs arcs pour pouvoir faire un numéro sur l'arc que M. Snyder écrivait en ce moment-là et en faire un event sur un mois. Il alors t'as fait les arcs de Nightwing qui étaient coupés en deux, juste pour aller pour parler de Death of the Family ou pour parler d'un autre truc de Snyder. Et puis bah, du coup, ça prend niveau de dynamique, etc. Pour les scénaristes, ça devait être un calvaire.
On peut parler aussi du numéro Zero Year pour toutes les séries d'ici. Oui, c'était démentiel, quoi. Alors qu'il n'y avait aucune logique.
Batman par Snyder, ça vendait. Donc, du coup, on en faisait des events, et on faisait des one-shots, et on faisait des trucs qui, eux, en plus, se vendaient. Donc, ça n'incitait pas d'ici à arrêter. Ça n'incitait pas Scott Snyder non plus à arrêter et aller toujours plus loin. Et c'est ce qu'il a fait continuellement dans son run. À chaque fois, on pensait qu'il avait mis le curseur au maximum, mais maintenant, il arrive encore à le pousser sur l'arc d'après.
Et puis pareil, tous ces personnages qui ont été ajoutés, on peut penser à Harper Row, on peut en penser à Duke, alors qu'il y a tellement de personnages déjà existants qui demandent qu'à rentrer dans le run.
Alors, autant que j'aime
poser les personnages.
Thomas, moi, je kiffe Duke Thomas, donc du coup, c'est...
Bah d'ailleurs, je pense qu'on peut transitionner tout de suite. Duke Thomas, ça nous amène à. Donc, c'est vrai qu'on sort d'un an donc de Zero Year, qui a, je pense, pas mal dissocié la fanbase et de Batman et de Snyder.
Ouais.
Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il nous refait sa deuxième partie de son arc narratif autour du Joker. C'est ce qu'il avait notamment dit lorsqu'il avait fait Death of the Family, qu'il avait quelque chose de prévu sur le Joker. Et on se retrouve avec donc Endgame, que moi, là aussi, j'ai été pris dans cette histoire, ce qui fait du Joker sur les premiers numéros, sur ce qu'il
encore
propose.
Le premier épisode qui est ouf.
Cette nouvelle caractérisation effectivement du Joker entre donc qui serait un esprit du mal pur réincarné dans un avatar donc qu'est le Joker. Moi j'ai trouvé ça excellentissime. J'adhère complètement à cette idée. Sauf que au final et on va se rendre compte aussi que Snyder a un schéma narratif très séquencé, très scolaire, avec voilà présentation, éléments perturbateurs, action, résolution. C'est toujours la même chose avec une conclusion qui se finit jamais. Et moi, j'y arrive pas. Cet affrontement dans les bas-fonds et la cave qui est sous Gotham, j'y arrive pas. Je déteste profondément cette fin d'arc. Dans Endgame, première partie excellentissime pour finir dans une déferlante de violence absolument ridicule pour ma part.
Et surtout, ça n'en finissait pas ce truc dans la cave, là, ça n'en finissait pas. J'avais envie qu'on m'achève, quoi. Je vais stop, arrêtez.
Joker, c'est une sorte d'Iron Fist. Il tient tête à Batman au corps à corps. C'est incompréhensible. Enfin, vraiment, je comprends pas.
Ouais, c'est juste avec son petit marteau, là. Bref. Et tu parlais de ces gimmicks d'écriture, effectivement, ultra-scolaire, etc. Et ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que si on regarde un peu tous ces arcs, tous ces arcs commencent par un endroit de Gotham et un point sur l'histoire.
Et ça, limite, j'aime bien, moi.
Et tous ces arcs.
Aussi, j'aime bien, ouais.
Et tous ces arcs se terminent également à cet endroit. On a la tour pour au moment
de l'armure.
On a le banc après, juste après Endgame, on a le banc. Bah,
pour le coup, Gotham pour lui c'est vraiment un personnage. En fait.
Ouais, là, j'aime bien ça aussi.
Tout le long de l'histoire, il a tout le temps parlé de Gotham et Gotham c'est presque le personnage principal en fait.
Le problème c'est de faire ça tout le temps. Il n'y a pas un arc où il a dérogé à cette règle, où il a dérogé à cette structure hyper scolaire, effectivement.
Ah bah, Anthony, Gotham détruite, Gotham reconstruite.
Ouais, ça aussi, c'est insupportable, quoi. Et je pense que ça trouve vraiment son apogée dans le dernier arc qui est un condensé de tout ce que est Snyder, donc super heavy.
Voilà, avec... super lourd en français, ça porte super bien son nom.
Avec notamment voilà l'introduction du Bat-Chappie, donc en fait à l'issue d'Endgame, pour remettre un petit peu dans la chronologie, à la fin d'Endgame, Batman est évidemment déclaré mort, on n'en doute pas, enfin on se doute que c'est totalement faux, on va vite s'en rendre compte, et du coup pour pallier à ça, Snyder va mettre en place une idée que je trouve là encore au final très pertinente au départ, c'est-à-dire de démocratiser le concept même de Batman et d'en faire une force armée policière qui se concrétise en fait à l'aide d'une armure, d'un exosquelette que va revêtir en fait James Gordon, qui est apparemment le seul candidat à pouvoir endosser ce rôle-là, donc qui du coup va se bulkiser un maximum, se raser, se faire une petite iroquoise du meilleur goût, alors que le personnage est potentiellement un papy, hein, soyons clairs, mais apparemment c'est sans branle.
Bah, c'est sans papy, quoi, c'est tortue génial.
c'est tortue génial, ça c'est pas mal. Et du coup, voilà, on a pareil. une première introduction qui tape fort, qui tape très très fort sur un concept encore plus, encore plus critique, on va dire, pour la fanbase Batman, avec l'introduction d'un nouveau vilain, Mr. Bloom, que je trouve designé à la perfection par Greg Capullo.
Ça, oui.
Malheureusement, son origin story est trop mystérieuse pour moi dans un numéro signé Jock, qui était très bien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé d'ailleurs de ce numéro un peu interlude.
Le problème, c'est que j'avais déjà lâché l'affaire.
Ah, d'accord. Il y en a d'autres qui ont...
Moi, Endgame, voilà, c'est Endgame. Quoi. Pour moi, c'était Endgame.
Il n'y a personne qui l'a lu, du coup, Père Evie, de A à Z ?
J'étais jusqu'au bout, mais là, je ne me souviens plus de ce numéro précisément. Ouais.
D'accord. Bah, du coup, voilà, on avait un numéro qui marquait un peu la pause, où Batman, dans cette espèce de prose qu'adopte Snyder de temps en temps, avec ce côté un peu élitiste, ma foi, qui... tenter de présenter les origines de Bloom, encore une fois liées à un quartier spécifique de Gotham. Malheureusement, bah, on n'en apprenait rien. Ça renforçait le côté très mystérieux du personnage pour se finir là aussi dans une orgie de destruction où on avait carrément un trou noir qui popait dans les rues de Gotham et Batman, revenu avec une machine où il avait réussi à stocker ses souvenirs, revenait comme ça et détruisait le trou noir. C'était...
Batman qui prévoit toujours tout à l'avance, c'est démentiel.
Ah, c'est génial, c'est absolument génial, c'est nanardesque au plus haut point, mais c'est tellement idiot et ridicule que ça en devient génial. En fait, j'adore cet arc, ce dernier arc de conclusion, j'adore. C'est tellement. Et c'est d'ailleurs ce que reprendra Tom King aussi, cette caractérisation totalement extrême. C'est un autre type d'extrême, mais je trouve que ce dernier arc de Snyder est à lire pour ce côté absurde. Je comprends pas.
Ben non, mais je comprends pas non plus, mais du coup, ça me. Autant toi, du coup, on en a déjà parlé plusieurs fois de cette fin d'Order de Run de Snyder.
Ah ouais, plus j'y réfléchis, plus c'est génial en fait.
Je sais que toi, ça t'amuse, etc. C'est quelque chose que tu prends du coup du côté nanar. Allez, on va regarder un truc. Voilà. Et moi, je peux pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à me mettre dans cette posture-là, et c'est aussi pour ça que j'accroche pas à Gotham. C'est exactement la même chose. Je regarderai Gotham dans le même esprit que toi, tu as lu Super Heavy. J'adore Gotham, ça se trouve. Mais je peux pas, j'y arrive pas.
Bah en fait, Super Heavy, au début, je me dis, putain, ça démarre bien. Il y a une pure idée autour de, voilà, de cette militarisation du Batman. Et au final, Snyder, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il prend. Et il part dans un trip The Expendables absolument génial. Et par contre, il clôture son run dans un numéro 51, il me semble, tout en sobriété, qui fonctionne pour moi, qui m'a vraiment pris au trip, avec un Batman qui patrouille une nuit, qui peut être n'importe quelle nuit de l'année, et qui en fait se rend compte qu'il n'y a pas de menace à gérer, avec un Alfred qui pianote sur son bat ordinateur en disant mais non, Maître Bruce, il n'y a rien à faire. Et du coup, on voit Batman, voilà, se déplacer de bâtiment en bâtiment un premier numéro de conclusion, du coup, qui, je pense, clôture très bien l'ère Snyder, qui aura marqué une vraie scission, je pense, dans les fans de Batman, qui aura, je pense, assumé son rôle de révolution du personnage, alors qu'il ne fonctionne pas vraiment. Il n'a pas réussi à aller au bout et faire concrétiser son idée de révolutionner le perso, malgré tout ce qu'il en dit. Là, on apprend à l'issue donc du Rebirth qui va nous faire un event Batman qui va revenir sur le personnage.
Ouais, cet été.
Cet
plus
été.
En cours, hein, plus All-Star Batman.
Ouais, plus le All-Star Batman, effectivement. Qui là aussi, vous l'avez lu ?
J'ai lu le premier.
Moi aussi.
Allez.
Ah, du coup, j'ai lu l'arc en entier.
Mais ça, on en parlera peut-être plus tard, parce que c'est...
Sachez juste que c'est tout aussi génial.
C'est presque spoilant potentiellement pour les lecteurs VF, parce que du coup, le temps que ça arrive chez nous.
Ouais, mais si vous avez aimé Super Heavy, c'est de la pépite, quoi.
Voilà, si vous avez aimé Super Heavy, c'est de la pépite. Voilà, tout est...
Anthony 2017.
Voilà.
Et non, et non.
Voilà, bon, après, oui, ça a divisé, ça divisera pendant longtemps, je pense, ce run-là, il y en a qu'adore.
Est-ce que, du coup, vous, Capullo, sur les... Bon, allez, on va dire les 50 numéros, une cinquantaine de numéros, ça vous a plu ?
Ah, moi, oui, bah...
Mais Capullo, c'est quand même super bien, je trouve, de ce que j'ai vu.
Oui, Capullo, ça me plaît, mais le problème, c'est qu'on n'est pas sur la série clone, quoi.
Oui, sauf sur les visages, effectivement.
Tout le monde sort ça.
D'accord, oui.
Entre Nightwing et Bruce, c'est un peu compliqué, des fois.
Ah ouais, même entre Bruce et un mec dans la rue, hein, des fois.
Heureusement qu'à la fin, il est barbu, parce que sinon...
Après, voilà, c'est le style de Capullo, d'essayer des visages comme ça. C'est vrai que tous ces personnages masculins, beaucoup en tout cas, se ressemblent. Voilà. Mais après, pour le design, tu parlais de Mr. Bloom, voilà, il a fait des planches de Joker, notamment sur le numéro 13, c'est incroyable. Son numéro 5 dans le labyrinthe des hiboux, voilà, c'est incroyable aussi. C'est quand même un petit génie, ce mec-là, quelque part. Et du coup, oui, voilà, c'est juste dommage que...
Il était quand même bien régulier quand même aussi hein, sur un bon nombre de numéros. Quand même.
Et après, on peut se dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Batman de Scott Snyder. Scott Snyder est le seul scénariste des New 52 à être resté du numéro 1 au dernier numéro avec Geoff Johns sur la Justice League.
C'est vrai.
C'est quand même, de nos jours, quelque chose qui est à noter.
Alors oui, c'est vrai que...
Pour faire des pauses, etc. Mais sur les 51, du coup, au numéro, c'est Scott Snyder.
C'est vrai que par rapport, voilà, à ce qu'on... Par rapport, voilà, à l'édition VF, on a cette... ce reboot relaunch du Mac Batman et d'ailleurs de toute la gamme kiosque de Urban en plein milieu, je sais pas trop pourquoi, mais ouais. Ça fait quand même une très belle collection, je trouve, d'avoir tous c'est assez plaisant.
Oui, le moment où ils sont passés de Batman Saga à Batman Univers.
Numéro 1, juste pour avoir un numéro 1.
Parce que DC.
Et c'était DU en plus, DCU. Ouais.
Effectivement, ouais. Effectivement. Ouais. Mais d'ailleurs,
c'est un peu justifiable.
Ouais. On pourra juste. Je voulais juste signaler qu'il y avait aussi Matteo Scalera, le dessinateur de Black Science, qui fait un numéro, le numéro 34, si je me souviens bien, dans un numéro là aussi one shot.
Il a su s'en parler. Quand il avait des artistes, quand Capullo faisait des pauses, voilà, c'était pas le kidam du coin qui prenait la place. Hein. C'était des
Scalera sur Batman.
Scalera, c'était. On a eu du
joke, du
paquet. Voilà. Ouais.
C'est vrai qu'il y a eu du paquet sur le 49.
C'est pas. Ouais.
Et d'ailleurs, on pourra juste signaler qu'il y a eu deux, on va dire, spin-off avec Batman Eternal et Batman et Robin Eternal.
Ouais.
Que j'ai trouvé ça. Enfin, c'était des purges.
Oui, Batman Eternal commençait bien et puis rapidement.
Vous les avez lus ? Enfin, du coup, Mathieu, oui.
Eternal, oui.
Non, j'ai détesté.
J'étais échaudé par Eternal, donc j'ai pas. C'était ce petit point du coup à faire sur le run de Snyder par Batman. Mentionnons tout de même quelque chose qui est un peu en dehors, qui a été fait un peu à part à l'époque, c'est Gates of Gotham hein, par Scott Snyder.
Oh oui. Ouais,
hors série, ouais.
Qui est quand même un sacré morceau. C'est un hors série kiosque qui est maintenant à peu près introuvable à moins de débourser une fortune et qui était ressorti aux 48 heures de la BD il y a 2 ans, qui était donc du coup proposé à 1 euro. Peut-être même que les 48 heures de la BD étaient gratuites à l'époque. Donc du coup. Gates of Gotham était une putain de bonne histoire aussi. Allez, on ne peut pas faire des missions de bulles sans faire un détour par l'univers Valiant. Et d'habitude, enfin au début, rappelez-vous, c'est moi qui parlais de Valiant, Valiant. Et aujourd'hui, il y a deux titres Valiant et c'est pas de moi, c'est Anthony qui en parle.
Ouais.
Tu vas commencer avec l'attendu Divinity 2.
Ah oui. Donc Divinity, c'est un peu particulier le mode d'édition.
Puisqu'en fait, la cover est particulière. Hein.
Oui, la cover est particulière, la cover est très sympathique. D'ailleurs, toutes les covers.
Ah bon, moi je la trouve faute de goût.
Ah, j'aime bien.
Pour le coup.
Ah, j'aime bien. Moi.
J'aime
ce
pas
côté embryon. J'aime bien.
Enfin, c'est ce côté noir surtout, c'est ce côté vide en fait qui me gêne. Mais
d'accord. Après... Moi j'aime bien le côté enfant in utero, ça me plaît bien. Enfin, du coup, par rapport au thème de la série, bon.
Oui.
Et d'ailleurs, toutes les covers qui sont réalisées, les covers régulières qui sont réalisées par Yelena Djurjevic, il me semble, sont à tomber. Voilà, c'était le point cover. Donc, Divinity, c'est un peu particulier. Donc, c'est écrit. En fait, c'est 3. Donc, aujourd'hui, on en a que 2 en VF, mais en fait, c'est 3. Mini-série de 4 épisodes qui en fait vont former globalement une série complète, donc 4 fois 3 épisodes, donc 12 épisodes. Et le pitch donc de départ, et du coup je vais détailler un peu ça du départ de ce deuxième tome, c'est l'Union soviétique est à la pointe donc du voyage spatial, et dans le premier tome elle envoie en fait dans l'espace, aux confins de la galaxie, une nacelle qui donc regroupe 3 astronautes qui ont été sélectionnés sur le volet qui représentent au mieux les valeurs du communisme et le tout l'héritage donc de Staline, pour justement aller être les premiers, la première nation à découvrir ce qu'il y a au-delà. Et en fait, on se rendait compte que le personnage donc, qu'on suivait dans le premier tome, Abraham, devenait une sorte de docteur Manhattan, justement à cette frontière de l'inconnu, revenait sur Terre, se livrait à une bataille idéologique et physique contre Unity, donc qui est en fait les Avengers de Valiant, qui regroupe donc Mathieu, dis-moi si je me trompe, Ninjak, Ixo,
oui. Ixo, qu'est-ce qu'il y avait,
Livewire,
il en manque un. Ah bah voilà, forcément c'est le dernier. Ninja.
Eternal Warrior.
Oui c'est ça.
L'Eternal Warrior, voilà. Donc on a une petite équipe donc, qui regroupe les grosses têtes de Valiant, et donc le personnage d'Abraham se soumettait et se rendait en fait de lui-même, puisqu'il se rendait compte que toute l'idéologie sur laquelle il s'était bâti était fausse, était faussée, et du coup il acceptait de se rendre aux forces donc de Unity. Et en fait ce deuxième tome, et je pense que ce sera le cas de la suite, c'est une hypothèse, j'en sais rien, j'ai pas lu de VO, donc c'est une pure hypothèse. On va suivre un deuxième personnage, en fait la nana qui avait embarqué parmi l'équipe, donc qui s'appelle Mishka, qui elle en fait est une extrémiste du régime politique, qui va acquérir elle aussi donc les mêmes pouvoirs qu'Abraham, donc une deuxième docteur Manhattan, donc ça vous laisse
un peu
imaginer le potentiel. Sauf que elle, donc évidemment, elle va revenir. Elle a la rage au ventre parce que Abraham l'a laissé sur donc, cette espèce d'astéroïde à l'interstellaire, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc elle revient dans notre monde actuel, sauf qu'elle est toujours motivée par l'idéal rouge. Ouais. Et elle va se livrer du coup à une guerre là aussi beaucoup plus physique dans une première partie, encore une fois avec Unity qui est largement dépassée, va devoir libérer, et là aussi il y a un petit jeu sur ça, Abraham, c'est très bien trouvé par Matt Kint qui scénarise la série, excusez-moi de pas l'avoir précisé avant. Et en fait, on va avoir voilà cet affrontement entre les deux personnages, donc Abraham et Mishka, avec un duel absolument sensationnel. Voilà, les personnages se déplacent dans le temps, se déplacent dans des futurs alternatifs, dans le passé, dans le présent, se téléportent. Donc le dessinateur, donc Trevor Hersine, qui assurait, il me semble, la première mini.
Ouais.
Là, se surpasse. Enfin, c'est vraiment, c'est assez particulier. Je trouve que ces visages sont parfois pas très justes, pas très réalistes, mais c'est tellement travaillé dans les compositions, ils jouent tellement avec les pouvoirs divins en fait de ces personnages que voilà, il y a certaines pages, c'est jamais tape à l'œil, c'est très très réfléchi, c'est très bien composé, il y en a partout. J'ai vraiment adoré, j'adore le concept en fait derrière Divinity, d'affronter le super-héros, une idéologie politique, une idéologie sociale, l'affrontement physique, enfin c'est ultra riche. Et du coup en fait le seul défaut, qui était le cas dans le premier tome mais moins marqué, c'est que c'est trop court en fait. C'est 4 numéros et malheureusement Matt Kint, je pense que c'était le contrat de départ, hein. Il rush un peu. Ça se conclut un peu rapidement, ça se conclut pas personnellement de la manière dont je l'espérais, et je pense que 5, 6 voire 7 numéros, maintenant c'est un peu compliqué de faire un TP derrière, ça aurait été tellement intéressant parce que c'est tellement passionnant à lire par rapport au paysage actuel du comics, et encore une fois Valiant prouve que qu'ils ont vraiment du niveau derrière, ils ont de la matière à vendre. C'est pas toujours le cas. Plus j'en lis, plus je me rends compte qu'il y a des choses un petit peu en dessous. Mais là, voilà, sur Divinity, c'est une lecture absolument indispensable qui peut se lire indépendamment. Encore une fois, on le dit à chaque fois. Donc du reste, voilà, une lecture moi qui m'a vraiment emporté. Donc c'est édité chez Bliss, 136 pages pour 13,95€. Donc on est sur un tarif globalement intéressant, normal. On peut noter un petit manque de bonus si nous avait habitué à mieux. On a quelques présentations de
travail. C'est vraiment qu'on fait la fine bouche, hein, parce qu'on trouvera jamais.
Ouais. En fait, on est tellement Bliss nous habitue tellement à avoir voilà, des réflexions sur la composition des pages, des artistes et tout. Là, c'est un petit peu moins le cas. Ouais, dans le premier tome était plus fourni.
Bah, on a quand même 10 pages de commentaires.
Ouais, je pinaille.
Et même plus, on a presque 20. Je suis en train de les feuilleter, il y en a beaucoup.
D'accord, ok, bon, ça va.
Non, c'est mais vraiment. Oui, c'est pas les intégrales avec 100 pages de bonus à la fin.
Ouais, c'est génial. Ça, tu prends vraiment conscience de tout le travail qu'il y a derrière, ça apporte même une deuxième lecture. Donc ouais, non, c'est vraiment une lecture absolument géniale pour ma part.
Ouais, bah pour moi aussi, hein, j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai relu aujourd'hui exprès pour l'émission. J'avais lu en VO, mais là, je me suis refait en VF. Ouais, c'est...
Et bah vous me donnez envie de lire.
Ah ouais, franchement,
Je l'ai en plus, mais je l'ai pas encore lu.
Et Rai, Rai, faut le lire. Je m'emporte, mais Rai, faut le lire aussi.
C'est lui, ouais, c'est ouais. Super.
D'ailleurs, petit coucou à Rai au passage, au travers de deux plans, juste deux planches, mais hop, on fait un petit passage au Néo-Japon et tout ça.
Oui, effectivement. Effectivement.
Voilà, c'est sympa. Du coup, ouais, l'univers est balayé comme ça, un petit clin d'œil. La façon dont elle obtient ses pouvoirs est intéressante aussi.
Ouais, c'est bien trash.
Il y a un petit jeu là-dessus, c'est pas la même chose. Que, voilà, il arrive un truc à Abraham, bah, c'est pas la même chose qui lui arrive à elle. Et puis moi, cette dernière planche.
Ouais.
Ce petit twist de bâtard de la dernière planche.
Ça laisse présager un troisième tome de dingue.
Qui finalement te retourne un peu la façon dont tu as vécu la résolution. Moi, je trouve ça assez cool.
Vraiment super. C'est trop court pour moi.
Oui et non. Après, c'est le deal. Hein. Valiroc, les mini-séries, c'est 4.
Oui. Au moins, c'est clair.
La plupart des TP et des arcs Valiant, c'est 4, hein, d'ailleurs. Ils ne sont pas sur des modèles en 5 ou 6. Hein. Si on regarde la plupart des TP, des tomes, en tout cas, c'est des 4 épisodes, rarement un 5. On a comment Ninjak, ou Ninjak, lequel a des histoires qui se passent, a des petites histoires bonus, bah, c'est Ninjak.
C'est Ninjak.
Où tu as l'impression d'avoir plus de numéros, mais en fait, non, tu n'en as que 4, mais tu as l'histoire bonus qui te rallonge le tome, en fait. Mais au final, ouais, c'est souvent 4 épisodes. C'est encore du bon, quoi. Encore du bon chez Valiant. C'est le haut du panier Valiant, hein, avec The Valiant, on a Divinity, on a Bloodshot Reborn, voilà, on a quand même.
Rai.
Oui, Rai, c'est vrai. D'ailleurs, la suite va arriver. Le haut du panier Valiant, voilà, Divinity est dedans, ça c'est clair. Et Ninjak, alors, le tome 2 de Ninjak. Souvenir, petite continuité du podcast. Tu avais été un peu partagé sur le tome 1.
Oui, alors que il me semble que c'était Arnaud qui avait fait la critique, été conquis.
Ouais.
Moi, j'avais traité le titre sous une. Enfin, à l'écrit. Et effectivement, j'avais trouvé ça. Correct, ça a emprunté à beaucoup de choses sans révolutionner le bousin. C'était très beau puisque c'était Clayman qui assurait l'ensemble du premier tome. Là, c'est plus le cas, donc déjà graphiquement, ça pêche un peu. Et en fait, là où le premier tome c'était la présentation globalement de l'intrigue, des enjeux, puisqu'en fait, Ninjak, donc cet agent secret Colin King, donc. Il est britannique,
ouais.
Et un peu une sorte de James Bond avec un Snake Eye de G.I. Joe, on l'avait dit. Donc, il devait infiltrer un réseau secret de trafic d'armes. Donc, il y arrivait dans le premier tome. Et là, en fait, c'est un peu bizarre. C'est toujours écrit par Matt Kint, d'ailleurs. Où, en gros, un épisode, c'est les numéros 6 à 9. Un épisode, c'est j'élimine une des cibles.
Ah bah c'est le vilain du mois. Hein.
Ouais, mais du coup, c'est le cas sur un numéro. Du coup, j'ai fini le premier numéro. Je me suis dit, mais il a mis un tome entier pour s'infiltrer dans le truc, prendre contact avec la cible, l'éliminer, faire son briefing, son débriefing avec son boss. Là, tout se passe en un numéro. Bon, ok. Un numéro d'ailleurs plutôt joli. Ça change de style graphique à chaque numéro. Donc, ça, c'est plutôt bien. Enfin, c'est bien et pas bien. Parce que du coup, chaque numéro et cible a son propre univers. Mais en termes de cohérence visuelle, bah, ça vient pas, en fait. Donc ça c'est un peu dommage, surtout que les styles graphiques se ressemblent pas trop, c'est un peu incohérent.
C'est le jour et la nuit. Hein.
Un peu hétérogène. Ouais. Personnellement voilà, il y a Juan Roserib, je n'aime pas du tout, alors que Raoul Allen.
C'est le numéro 2, le 7e, le numéro 7 avec la femme là.
Ouais, j'ai trouvé ça infâme quoi.
Je le trouve splendide.
Ah bon ?
Ouais, j'adore ce numéro. Enfin, graphiquement, ah non, attends, numéro 7. Ah non, j'ai le numéro 7. Ah non, pas celui-là, d'accord. Ok, non. C'est le numéro 6 que je préfère. Ok, j'ai rien dit.
Ouais, le numéro 6 avec le barbu.
Oui.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça vraiment super. C'est un peu du Chris Samney. Ça ressemble un peu à ce truc-là. Et c'est un peu les mêmes compositions avec très travaillé, très graphique. Enfin, graphique dans le sens des compos très stylés avec des cases, avec des trucs écrits, les personnages qui bougent dedans. Enfin, c'est bien pensé. Et pour revenir du coup sur la construction narrative, donc premier numéro, on élimine une cible, deuxième numéro, on élimine une cible, et au final, c'est le cas dans tous les numéros, donc pas vraiment de surprise, c'est très facile, il n'y a plus vraiment d'enjeu, puisqu'au final, on sait comment le schéma narratif fonctionne, donc c'est un peu dommage. En plus de ça, il y a toujours ces numéros, enfin ces quelques pages, comme tu le disais, qui entrecoupent les numéros, les singles en fait. Et le truc, c'est que ça sort complètement de la trame principale. Maintenant, ça développe l'entraînement de Colin et de son potentiel lien passé avec ses 7 ombres, donc qui sont les chefs de ce réseau. Ça fait rien de plus que le tome 1. Pour moi, c'est assez maladroit dans sa narration, assez répétitive. Graphiquement, ça m'a pas emporté. Je suis un peu beaucoup plus mitigé, en fait, et sur ce tome et sur la série globalement. qui est vraiment dans le, allez, dans le bas du panier Valiant pour ma part, alors que le personnage, pour le coup, dans XO, dans l'intégrale XO où il apparaît, j'ai trouvé ça excellent.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord globalement sur le deuxième tome, un peu répétitif graphiquement, tout ça, je suis d'accord. Moi, les dossiers secrets, du coup, je les lis à la fin. J'ai lu tous les épisodes et après, je me suis fait tous les dossiers secrets à la fin. En plus, Stéphane Segovia au dessin sur ces parties-là. Voilà, ça déboîte comme on dit. Après, donc du coup, je l'ai un peu mieux vécu entre guillemets, mais en n'ayant pas eu cette petite pause, eh ben, je me suis tapé vraiment des enchaînements de cas de la semaine.
Bim, bim, bim.
Dommage. Pourtant, j'aime bien le personnage, j'aime bien. Voilà, bon. Ouais, mais bizarrement, j'ai pas détesté pour autant.
Non, mais c'est suffisamment bon et suffisamment dynamique pour être lu. Maintenant, honnêtement, chez Bliss, vu que comme tout est séparé et est indépendant, honnêtement, je conseille pas Ninjak. Je vous conseille voilà typiquement Divinity ou d'autres lectures. Maintenant, si vous êtes vraiment fan d'une infiltration un peu violente, un peu acrobatique, voilà, avec un personnage hostile assez sympathique à l'œil, pourquoi pas. Maintenant, voilà, chacun son truc. Mm. Et du coup, Romain, tu l'as lu ?
Je l'ai aussi. Il est acheté, mais pas encore lui non plus.
Pas encore. D'accord.
Ouais, ah bah, Bliss a accéléré la voilure, hein. Enfin voilà,
ils sortent
sur l'année. Hein. Ouais. Ça s'accélère, du coup.
Il y a un sacré planning pour la suite après. Hein.
Pour vous dire, j'avais prévu de vous parler ce soir de Ivar Timewalker. Je vais attendre un petit peu, parce que j'ai quelques épisodes.
Il y a aussi le gros Harbinger.
Harbinger qui arrive la semaine prochaine, parce qu'on enregistre, c'est encore pas sorti. J'en ai eu une très grosse partie, donc ça va.
Donc,
je vais pas avoir beaucoup à rattraper dessus.
Les X-Men par Valiant, ça peut être.
J'ai tout lu, c'est génial, franchement, ouais, c'est génial.
Harbinger Wars et tout ce qui se passe autour de ça. Le personnage de Faze qui va avoir sa propre série après.
On en discutait un peu de notre côté, ça va permettre un peu de développer c'est Arada, c'est ça?
Toyo Arada, ouais.
Arada, parce que c'est vrai qu'on le voit évoluer.
Arada, Rising Spirit, on en entend beaucoup parler, mais pour le moment, les lecteurs VF n'ont pas forcément, enfin, qui n'avaient pas lu chez Panini, ne connaissent pas encore vraiment.
Vu que ce sera au centre de ce tome, de cet énorme tome d'Harbinger, c'est très bien de le sortir maintenant, puisqu'on commence à s'impatienter et ça sort au bon moment pour découvrir tout ça. C'est très bien pensé de la part de Bliss.
Ouais, c'est ça. Et puis, moi, c'est la série Harbinger qui m'a accroché à l'univers Valiant. J'avais commencé un peu dans l'ordre, hein, avec XO, que j'aimais bien, mais je me disais bon. Et après, Harbinger est arrivé tout de suite après. Ah ouais.
Mais XO, ça monte. C'est un truc, c'est vraiment graduel, quoi. Ça fait que monter.
Oui, c'est pour ça les premiers numéros d'XO n'avaient pas suffi à m'accrocher à l'univers. Mais derrière, Harbinger est arrivé, j'ai bien vu que tout allait se tenir et que. Ouais,
c'est mais le. Rail, putain, rail, quoi.
C'est une leçon d'univers partagé. Voilà. Rail arrive, t'inquiète pas, tu vas avoir ta dose avec en plus le crossover 4001 AD. Ouf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on va terminer avec un O comme Oldies, le dernier numéro de ce mois-ci, décidément grosse émission. J'avais envie d'en parler, mais je ne savais pas si je voulais en parler à l'écrit ou en podcast, etc. J'ai choisi la formule podcast pour être sûr que vous soyez un maximum à entendre parler de ce titre plutôt que de voir le titre sur le site ou sur nos pages Twitter et pas cliquer parce que vous ne connaissez pas ou parce que... voilà. Donc, ElfQuest ressort en France. C'était déjà sorti notamment chez Vent d'Ouest. Ça ressort chez un nouvel éditeur qui s'appelle Snorgleu Comics. Snorgleu du nom de la librairie marseillaise, puisque ce sont les mêmes personnes qui sont derrière les deux, qui se sont donc lancés dans le game, on va dire, et qui commencent avec ElfQuest, et qui, pour le grand plaisir d'Anthony notamment, vont sortir Aftershock, des titres Aftershock.
Ah, cool.
Ah, ça c'est bon ça.
Voilà. On en parlait il n'y a pas très longtemps dans une émission, on se demandait tiens, qui va éditer Aftershock. Maintenant on le sait, c'est Snorgleu, qui en aura au moins deux titres de chez eux, qui seront d'ailleurs proposés en FCBD.
Comment ils ont réussi à négocier ça?
Ça c'est une belle pioche, très belle pioche.
Je sais pas, mais bon après, en tout cas, voilà, ils vont même proposer des FCBD, des premiers numéros des deux séries qui vont sortir dans la foulée.
Mais c'est ouf, parce que les TP en matérialisé, ils sont même pas dispo en fait.
Ils sont sortis ce mois-ci, les premiers TP.
D'accord, ok.
C'est ça, et c'est pas pour tout de suite, hein, je crois qu'il y aura un mois ou deux d'attente après le... Mais je suis pas sûr, je vais pas dire de conneries. Il y aura sûrement un peu d'attente après le FCBD, avant la sortie physique des tomes. Mais en tout cas, voilà, ils ont négocié ça, ils ont eu ça. Il y a celle de Brian Pucelato, je crois d'ailleurs. Non, ou Azzarello. Enfin, un Brian.
Azzarello.
Bon, il est bien aussi.
Ah oui. Oui, je vois ce que c'est.
Mais revenons à ElfQuest. ElfQuest, série qui fait partie de la légende des comics, enfin peut-être assez peu connue chez nous en France, mais en tout cas aux États-Unis, ElfQuest, voilà. Par le couple Wendy et Richard Pini, qui est un couple, ma foi, à l'histoire éminemment sympathique, puisqu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux grâce aux comics, et à une lettre postée dans un numéro Marvel. Par Wendy, je crois, et Richard lui avait répondu, etc. Et puis, bah voilà. Et derrière, ils sont lancés dans cette histoire de ElfQuest qui a commencé en 1978. Donc, ce qu'on a là, c'est des premiers numéros 1978 et qui continue à sortir aujourd'hui. Bon, il y a eu des interruptions, il y a eu plein de changements d'éditeurs, il y a eu une histoire éditoriale, ma foi, très compliquée autour de ça. Je suis tombé complètement par hasard, sur un podcast qui parle d'ElfQuest, un podcast
comics
français.
Comics Faire,
c'est ça. Si vous voulez en savoir plus sur Richard et Wendy Pini, sur ElfQuest, sur toute l'histoire, etc., éditoriale de la série, bah, allez les écouter, ce sera très, très instructif. J'ai vraiment aimé cette émission, du coup, je pense que je vais écouter ce podcast un peu plus régulièrement.
C'est Spade et Gré Pigeon.
Vraiment par hasard. Je suis tombé vraiment sur eux par hasard. Et très très cool cette émission sur ElfQuest. C'est ça et le nouvel éditeur Snorgleu, etc., qui m'ont motivé à les lire. Et même fois, j'ai bien fait. Ce qu'on a là, c'est le premier tome de la quête originelle de ElfQuest qui contiendra 4 ou 5 volumes, je crois. Les 4 premiers numéros. Alors, on nous parle de quoi ? On nous parle, comme leur nom l'indique, on nous parle d'elfes qui, au moment de la préhistoire sur notre Terre sont débarqués. On débarquait sur la planète à travers une faille dimensionnelle, une espèce de gros palais elfe qui s'est posé comme ça au milieu d'une forêt. Et puis, forcément, ça s'est pas très bien passé avec les hommes. Ça s'est même très très mal passé. Ils ont été massacrés. Et tous les elfes ont été massacrés par les hommes. Mais il y a quand même quelques petites tribus qui ont réussi à survivre, notamment les Wolf Riders qu'on suit là avec leur chef Cutter notamment. Et qui tentent tant bien que mal de survivre face à la menace que représentent les hommes pour leur espèce. Ils tentent de se nourrir, ils sortent pas la nuit, ils sortent pas le jour, que la nuit, ils restent camouflés, etc. Mais bon, on sent bien que ça va pas tenir longtemps, toute cette histoire-là. Et forcément, ce qui doit arriver arrive, et il va y avoir un énième affrontement qui va très mal tourner puisque les humains brûlent la forêt. Alors là, voilà, il n'y avait pas moins radical. Ils ont brûlé la forêt. Il n'y a donc plus aucun abri possible pour les elfes qui doivent se regrouper dans la caverne des trolls. Et puis de là, ils vont se faire avoir par les trolls, évidemment, puisque ce sont des trolls. Et vont se retrouver dans une partie du monde dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, à rencontrer une autre tribu qui n'a pas du tout les mêmes modes de vie que eux, qui sont a priori très civilisés, etc. Je vais m'arrêter là pour l'intrigue puisque j'arrive bientôt aux portes du numéro 2. Alors sous ces airs comme ça, très innocent, très fantasy, parle d'elfes, de trolls, de guerre avec les humains, etc. On a lu ça plein de fois. Mais non, on n'a pas lu ça plein de fois en fait. C'est ça qui est assez dingue, c'est que c'est des choses qu'on a l'impression de connaître quand on lit comme ça des résumés ou qu'on entend des résumés et qu'en fait on n'a jamais lu traité de cette manière-là. C'est assez fascinant, je trouve. Il y a un message, le truc a été écrit en 1978, il y a un message sur la différence, l'acceptation de l'autre, des autres peuples, des autres peuples de la même espèce, puisque entre elfes, il peut se passer des problèmes entre tribus, on le verra. Il y a ce message-là sur la différence, sur l'interculturalité, sur les droits de la femme. On est en 1978 et il y a un message sur les droits de la femme qui est assez fort et assez courageux pour l'époque, j'ai envie de dire. Bien, très très bien, du coup, ce ElfQuest tome 1. On sent qu'on embarque pour un truc aux ramifications multiples. Ça sort encore aujourd'hui. Hein. On en est à The Final Quest qui vient de se terminer peut-être chez Dark Horse. Toujours par Wendy Richard Pini d'ailleurs. On sent qu'on est parti effectivement, hein, qu'on met le pied là dans un truc qui va durer des tomes et des tomes et des tomes. Oui, ça va durer des tomes et des tomes et des tomes. Réservez un rayon de votre bibliothèque si vous commencez à lire ElfQuest, puisque c'est ce que je craignais. J'ai mis le pied dedans et maintenant je crois que je vais plus l'enlever et que je vais aller jusqu'au bout parce que le traitement est original, parce que ces personnages, même graphiquement, on voit que c'est les années 70, fin des années 70, début des années 80, des trucs très psychédéliques, des couleurs, des tripes des fois un peu étranges, la forme des visages, etc. Enfin, très, très caractéristique aussi de ce qui pouvait être les trucs un peu indés à l'époque. Mais ça marche, c'est intemporel. Ça a traversé les décennies sans prendre une ride. C'est assez fort. Et je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les œuvres cultes, finalement. Donc,
D'accord.
ouais, je m'y attendais pas, hein. Je me suis dit, allez, je vais le lire, un nouvel éditeur, voilà, on va le soutenir, on va acheter le premier tome, etc. Bah ouais, mais ouais, bah maintenant je suis emmerdé parce qu'il va falloir que je continue.
Ouais, tu m'as donné envie. Hein.
Donc voilà, non, c'est très très sympa. Je me suis fait cueillir quoi par ce truc-là et il y a des espèces de sous-textes un peu. Alors oui, bon, voilà, c'est écrit à la manière des années 78, hein, donc prenez des RTT pour pouvoir lire le tome, hein, déjà, parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a ces choses un peu qu'on peut détester, voilà, où on nous raconte sur certaines cases ce qu'on voit sur le dessin. À l'époque, on faisait beaucoup ça, les cases de texte pour nous décrire l'image. Bon, mais ça passe bien. Il faut être indulgent et se rappeler que ça a été écrit avant les années 80. Et ça passe bien.
D'accord.
Voilà, mais on reparlera peut-être d'HelloQuest plus tard, quand le tome 2 sortira dans l'année, hein, le tome 2 chez Snorgle.
D'accord.
Donc je guetterai ça de près et je vous en reparlerai si les choses se confirment. Eh bien voilà, on est arrivé au bout de cette émission fleuve de bulles du mois. Émission numéro 266. On se retrouvera prochainement pour la 267e. On vous parlera de la mort, enfin de mort emblématique dans les comics. Et puis on reviendra pour des bulles. On vous a parlé de bulles VO. Et bien vous allez les avoir dans deux émissions. Ce sera la 268. Et en attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les titres que l'on a chroniqués ce mois-ci. Si votre avis est le même que le nôtre, si vous n'êtes pas d'accord, etc., etc. Nos pages Facebook et Twitter sont là pour ça. Notre mail aussi, redac@comicstories.fr. Si par hasard il vous prenait l'envie de venir écrire ou parler chez nous, ben, n'hésitez pas non plus à nous contacter pour ça. Nous saurons vous accueillir. Enfin, ça dépend qui vous accueillera. Mais en général, on sait le faire. Et puis en attendant la prochaine émission, évidemment, bonne lecture. Vous avez du boulot si vous vous êtes laissé séduire par certaines de nos chroniques. Vous allez avoir des heures et des heures de lecture en attendant les prochaines émissions. Bonne lecture donc et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.